Bonjour, c'est Léa, journaliste sur les affaires européennes à Bruxelles. Dans mon dernier podcast, je vous parlais des priorités du Parlement européen pour 2023. Cette fois, je me penche sur un sujet un peu plus technique, la manière dont l'UE tente de concurrencer les États-Unis dans la course à la compétitivité industrielle, en particulier quand il s'agit de la transition verte. Vous avez peut-être entendu que les États-Unis avaient adopté une loi pour soutenir son industrie dans la transition, le fameux Inflation Reduction Act, ou IRA. Il prévoit d'injecter presque 400 milliards de dollars dans la production de technologies vertes en Amérique du Nord. Dans cet épisode, je vais analyser la réponse de l'UE à tout ça et pourquoi pas tenter une petite comparaison. Il y a quelques semaines, le géant allemand Volkswagen a annoncé qu'il suspendait ses plans pour installer un site de production de batteries en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'il envisage d'installer cette production aux États-Unis plutôt. Là-bas, l'entreprise pourrait bénéficier de plusieurs milliards de dollars en subventions. Et c'est là donc l'un des premiers effets de l'IRA américain, qui est entré en vigueur en janvier 2023. Ce qui caractérise notamment les aides de l'IRA, c'est qu'elles sont soumises à des conditions de production ou d'assemblage locales. Autrement dit, ce sont surtout les producteurs en Amérique du Nord qui vont en bénéficier. Avec de telles conditions, les États-Unis espèrent attirer la production de technologies vertes sur leur sol. Le revers pour l'Union européenne, c'est que plusieurs autres entreprises envisagent désormais de délocaliser outre-Atlantique.
There's a risk that the IRA can lead to unfair competition, could close markets, and thus fragment the very same critical supply chains that have already been tested by COVID.
On entend ici la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui évoquait le risque pour les marchés mondiaux créés par l'IRA. C'était en décembre 2022 déjà. Pour l'UE, cette préférence locale n'est pas conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, et on doit s'y opposer. Ceci étant dit, les Européens ont vite eu besoin d'un plan pour rassurer les acteurs économiques. Et la Commission européenne a vite réagi en proposant en février son propre acte pour l'industrie zéro émission nette. Ce texte législatif liste 8 technologies dites zéro émission et particulièrement stratégiques. Il donne des avantages à leur production. Parmi ceux-ci, la Commission prévoit par exemple des procédures d'octroi de permis accélérées, un accès facilité au financement ou encore un soutien administratif pour l'installation. Les 8 technologies stratégiques comprennent entre autres les panneaux solaires, les éoliennes ou encore les batteries. L'objectif de l'Union, c'est que 40% de ces technologies vertes consommées dans l'UE soient produites sur le sol européen d'ici 2030. Il y a encore du chemin à parcourir avant que le texte soit adopté. Mais pour l'instant, le Parlement européen et les États membres au Conseil ont accueilli la proposition positivement. L'eurodéputée allemande Anna Cavazzini, par exemple, du groupe des Verts, a exprimé son enthousiasme sur le texte après sa publication. Elle préside aussi la commission pour le marché intérieur au Parlement européen.
I think what is the game-changing and really new...
L'élément révolutionnaire et réellement innovant de cette proposition est qu'il s'agit vraiment de l'une des premières propositions législatives industrielles que nous ayons eues. Jusqu'à présent, la politique industrielle était un peu une question de coordination et nous avons bien sûr fait de la politique industrielle dans d'autres domaines, dans le cadre de la politique du marché intérieur ou de la politique commerciale. Mais avoir pour la première fois vraiment une loi qui essaie de favoriser un certain type d'industrie, l'industrie verte en l'occurrence, c'est assez neuf et c'est pour moi la grande innovation. Quant à savoir si cela changera vraiment la donne, c'est à voir car bien sûr en fin de compte, beaucoup dépend aussi du financement.
Contrairement à l'IRA américaine, l'acte sur l'industrie zéro émission nette se concentre sur l'environnement réglementaire plutôt que sur l'argent. Les éléments sur les investissements publics sont abordés à travers une liste de programmes ou de mécanismes de financement que l'UE pourra mobiliser pour ce plan industriel. On peut nommer le plan de relance, le programme InvestEU ou les aides d'État au niveau national. Mais le règlement ne prend pas le risque de donner un quelconque montant pour chacun de ces différents outils. Pour l'analyste politique Philippe Lausberg, qui travaille sur ce dossier au European Policy Center, une allocation claire de financement pour l'acte sur l'industrie zéro émission nette ne ferait pas de mal.
Il n'y a pas de fonds qui sont directement alloués à l'acte pour l'industrie zéro émission nette. Cela crée une situation où il y a beaucoup d'argent qui vient de différentes sources. L'idée, en général, c'est que vous démarrez avec un investissement public et ensuite les investisseurs privés suivent. Alors avoir un environnement si compliqué rend cela beaucoup plus difficile. En additionnant tout l'argent dédié, qui vient de différents projets, la question se pose premièrement de savoir si ce sera suffisant, et deuxièmement, s'il sera aussi facilement accessible que dans le cas des États-Unis, et qu'il ne crée pas plus de complications et de fragmentation dans l'UE.
As easy accessible as, for example, the United States, and if it is not creating more complications and fragmentations in the EU.
Aux États-Unis, le système de l'IRA est très clair. En tant que consommateur, si vous achetez une voiture électrique, par exemple, qui est produite et assemblée principalement en Amérique du Nord, vous pouvez prétendre à un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 7 500 $. Et la part de la production qui doit être faite de manière locale est définie clairement. Quant à l'acte sur l'industrie zéro émission nette, il encourage aussi les installations locales de production de technologies propres, mais il le fait différemment. Il ne fournit pas de financement spécifique pour une installation locale, mais il accélère et simplifie les procédures d'octroi de permis, comme je le disais, et, ou facilite les contacts administratifs. Donc l'acte pour l'industrie zéro émission nette est plutôt timide sur les financements. De manière générale, les technologies vertes bénéficient déjà de fonds publics européens, à travers plusieurs outils comme les projets importants d'intérêt européen commun, les PIEC, le programme Horizon Europe, qui soutient la recherche, mais aussi les aides d'État dans chaque pays membre. Mais la Commission européenne a compris qu'il fallait encore plus que cela. C'est pourquoi elle a déjà fait un effort en assouplissant ses règles sur la concurrence. Ce que ça signifie, c'est que concrètement, les États membres vont être en mesure, pendant un certain temps, d'octroyer plus d'aides à leurs entreprises dans le domaine de la transition. Il faut toutefois noter que plusieurs pays, en particulier ceux qui ont le moins de capacité de financement public, se sont montrés plutôt réticents à faire de tels changements dans les règles. Pour eux, il faut bien rappeler que les aides d'État ne sont pas la solution miracle pour financer l'industrie verte, tout simplement parce qu'il y a de grandes inégalités entre les trésoreries nationales. Alors pour continuer à soutenir l'industrie verte, la Commission européenne a lancé l'idée d'un fonds de souveraineté. Il s'agirait en gros d'une nouvelle ligne dans le budget pluriannuel de l'UE. L'accueil a été mitigé dans les institutions européennes. Les députés se sont montrés plutôt enthousiastes, alors que les États membres étaient plutôt sceptiques. La France a été jusqu'ici le meilleur soutien de cette idée de trouver de l'argent frais pour soutenir l'industrie verte européenne. Un tel fonds de souveraineté pourrait au moins rassurer ceux qui trouvent que l'industrie bénéficie de manière inégale des aides d'État dans l'UE. C'est notamment l'avis de Philippe Lausberg.
Il y a beaucoup d'espoir là-dessus. Ici aussi, à l'EPC, nous avons écrit un article avec un collègue sur un nouveau mécanisme de financement basé sur un fonds de souveraineté que nous voyons comme très important. Aussi parce que c'est de l'argent qui est européen, il n'y aurait pas de problème des aides d'État qui peuvent fragmenter l'environnement financier.
Pour lui, un tel fonds de souveraineté devrait atteindre 100 milliards d'euros pour avoir un réel impact. À savoir que la Commission européenne a estimé, dans un document de travail interne, que le montant total des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de l'UE en 2030 était de 92 milliards d'euros. Revenons à la bataille entre l'IRA et l'acte pour l'industrie zéro émission nette. Prenons un autre aspect. Les deux grandes forces de l'IRA sont, premièrement, le volume d'argent qu'il distribue, et deuxièmement, ses conditions de production locale. L'UE ne voulait pas répliquer ces dernières conditions, car elles vont à l'encontre des règles commerciales. Pourtant, l'objectif de Bruxelles est le même que celui de Washington, relocaliser la production de technologies stratégiques, et surtout réduire ses dépendances envers la Chine. Au final, les deux actes traitent de résilience et d'autonomie stratégique. Et ceci n'est pas rassurant aux yeux de certains, car ce n'est peut-être pas la meilleure manière d'arriver à une transition verte rapidement. C'est du moins ce que pense Nicolas Poitier, qui est chercheur au think tank Bruegel.
L'objectif des subventions de l'IRA ou des subventions équivalentes en Europe n'est pas de décarboner plus rapidement, mais plutôt de garantir que les technologies soient produites en Europe. Il n'y a pas de lien clair entre les deux. Et on pourrait sûrement décarboner plus rapidement en utilisant ce même argent et en investissant dans des technologies en développement, pour des secteurs qui sont difficiles à décarboner. Ce serait aussi un type de subvention industrielle en quelque sorte. Si vous réfléchissez par exemple à comment construire des technologies d'essai, ça peut montrer que vous pouvez fabriquer de l'acier ou des procédés chimiques qui sont difficiles à décarboner et que vous pouvez le faire de manière viable. Ce sont des exemples où des subventions peuvent jouer un rôle important. Et avec mes collègues qui ont écrit sur le sujet, nous pensons que c'est plus important que les subventions pour fabriquer des technologies qui sont déjà matures.
Nicolas Poitier considère que l'argent pourrait être mieux dépensé dans la recherche et le développement pour avoir une décarbonation plus efficace. De plus, il considère qu'encourager la production locale peut être contre-productif pour deux raisons. Premièrement, cela envoie un signal négatif aux pays en développement qui essayent de se positionner dans la transition. Et deuxièmement, ce n'est pas la meilleure manière de combattre le changement climatique en termes de résultats, selon lui.
Ce sont des produits qui peuvent être fabriqués pour moins cher et plus efficacement dans des pays de différentes régions du monde, à cause des effets de groupe par exemple, et qui sont peut-être à des étapes de développement différents. Ce qui veut dire que des choses comme le coût du travail peuvent être plus bas. Donc, il y a des effets de spécialisation qu'on devrait exploiter. Si notre objectif est vraiment de décarboner plus rapidement, alors nous devrions nous concentrer là-dessus.
En effet, une étude réalisée par McKinsey en décembre 2022 a montré que le coût de fabrication des panneaux solaires fabriqués en Europe sur toute la chaîne de valeur sera 20 à 25% plus cher que les coûts actuels. Il faut aussi souligner que l'étude montre un potentiel de compétitivité pour les sites de fabrication en Europe. Par exemple, ceci pourrait avoir un avantage en tant que précurseur dans certaines technologies. Ça, la Commission l'a bien compris et elle a intégré un chapitre sur le développement des compétences dans l'UE dans son texte. Enfin, l'étude de McKinsey indique aussi que les consommateurs européens seront sûrement prêts à payer un peu plus cher pour des produits made in Europe. Et les entreprises, qu'en pensent-elles de l'acte pour l'industrie zéro émission nette? Eh bien, elles sont un peu mitigées, disons. L'industrie insiste sur le fait que les subventions ne font pas tout pour attirer les investisseurs. Elles appellent surtout l'UE à se retenir d'adopter toujours plus de règles qui crée une énorme charge administrative pour les entreprises, disent-elles. Dans ce sens, les procédures d'autorisation de projets accélérées sont bienvenues. Mais globalement, il faudra s'attendre à un grand débat sur les technologies qui sont listées dans l'acte pour l'industrie zéro émission nette et aussi sur ses grands objectifs.
Bien sûr, il y a des personnes qui critiquent le fait qu'imposer de simples objectifs ne permettra pas forcément à l'industrie de les atteindre. Mais il est clair qu'il est important d'avoir un plan et une feuille de route, et des choses comme des procédures d'autorisation plus rapides, etc., pour y parvenir. Je ne partage pas du tout leur point de vue, mais d'entendre dire que nous sommes dans une économie planifiée ou je ne sais quel dirigisme, cela montre aussi à quel point cette proposition est forte. Je pense qu'il est judicieux d'établir un cadre réglementaire, car les politiques de laisser-faire de ces dernières années n'ont finalement pas fonctionné. Je pense donc qu'il s'agit d'une bonne proposition. Reste à savoir maintenant si elle fera la différence.
Le texte est maintenant entre les mains du Parlement et du Conseil, qui devront négocier et adopter une position commune. Ce qui devrait prendre plusieurs mois au mieux. En tout cas, les deux institutions s'accordent sur le besoin urgent de réduire les dépendances envers la Chine s'agissant de l'industrie des technologies vertes. Au final, l'acte sur l'industrie zéro émission nette et l'IRA se concurrencent, mais ils se positionnent tous deux contre la mainmise chinoise. Voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez un aperçu assez clair de ce qui se joue pour ces deux textes importants. On se retrouve bientôt sur ce sujet ou sur d'autres.